Bonjour Sébastien Jean.
Bonjour.
Inquiétude pour l'économie mondiale, crainte de récession, menace sur la croissance, marché secoué. Voilà quelques titres glanés dans la presse ces derniers jours. Est-ce que c'est grave, docteur ?
Le diagnostic n'est pas évident à faire, mais il est clair, je crois, aujourd'hui que les nuages noirs s'accumulent. On est dans un contexte de ralentissement de l'activité économique, simultané dans la plupart des grandes économies mondiales, et de très fortes tensions. Et c'est cette conjonction qui est à l'origine des inquiétudes très fortes qui s'expriment ces jours-ci.
Est-ce qu'on est à la veille d'une nouvelle crise ?
Eh bien, c'est évidemment la question qui se pose. Ce qui est en train de se passer, c'est que on était dans le processus de normalisation, c'est-à-dire qu'il y a eu la crise économique et financière de 2008-2009, à la suite de quoi on a pris des mesures exceptionnelles de politique économique pour contrer les effets de cette crise. Puis il y a un moment, si elles sont exceptionnelles, il faut mettre fin à ces mesures. C'est ce qu'on était en train de faire.
10 ans après. Hein.
Voilà, 10 ans après. Simplement, le retournement de conjoncture, ou en tout cas ces inquiétudes, arrive au milieu de ce processus. Donc on n'a pas eu le temps de normaliser, si bien qu'on est encore dans une situation où les politiques économiques, monétaires en particulier, soutiennent très fortement l'activité et on a un ralentissement. Donc on est déjà, disons, si vous voulez, le pied sur le plancher en termes de politique économique et on a l'impression qu'il faudrait accélérer pour éviter, de subir un trou d'air économique.
Il faudrait faire plus. L'inquiétude principale, si je comprends bien, elle vient des États-Unis. Où les analystes pointent ces derniers jours de façon répétée un risque de récession à l'horizon 2021.
Bon, l'inquiétude principale, les États-Unis sont une source d'incertitude très forte aujourd'hui. Mais paradoxalement, ça n'est pas le pays dans lequel la dégradation de la conjoncture est la plus nette. Mmh. C'est en Europe aujourd'hui qu'elle est la plus nette. La Bundesbank a dit il y a quelques jours que elle s'attendait à une récession, donc un deuxième trimestre consécutif de repli de l'activité en Allemagne. Certains disent que c'est peut-être déjà le cas.
L'Allemagne qui est le moteur de la zone euro, moteur
absolument,
de l'économie européenne.
L'Allemagne qui est aussi, au fond, le précurseur de l'exposition aux marchés internationaux, étant donné la très grande ouverture de son économie. Donc aujourd'hui, le repli de l'activité, il est plus net en Europe qu'aux États-Unis.
Donc ça va déjà, entre guillemets, plus mal en Europe qu'aux États-Unis aujourd'hui.
Oui, pour une raison au fond qui s'explique aussi par le fait que les États-Unis sont dopés à la réforme fiscale de l'an dernier qui continue de produire ses effets. La situation des États-Unis, elle est au fond plus inquiétante à terme parce que non seulement il y a une politique monétaire qui s'est assez peu disons qu'il y a peu de marge de manœuvre, mais en plus les États-Unis sont déjà dans une situation où ils ont un déficit budgétaire très élevé, donc ils n'auront pas non plus de marge de manœuvre pour jouer sur les dépenses publiques si jamais l'activité se replie. Et donc, c'est pas non plus rose aux États-Unis, c'est inquiétant à terme, mais dans l'immédiat, aujourd'hui...
Dans l'immédiat, ça n'est pas là où les signaux sont les plus inquiétants.
Non, pas dans l'immédiat.
Ça n'est pas la situation économique actuelle des États-Unis qui inquiète, c'est l'avenir.
Absolument.
On le comprend bien. Nous sommes très loin d'une récession, a redit hier Donald Trump. Est-ce qu'on peut le croire? Et on est presque tenté de le croire, au travers de ce que vous dites et de ce que l'on constate en lisant les chiffres. On n'est pas loin du plein emploi aux États-Unis. La croissance, elle est toujours positive. La consommation des ménages, elle est bonne.
La politique de Donald Trump, il est difficile de lui donner une très grande rationalité, disons.
Difficile à suivre pour un économiste.
D'en discerner la cohérence, notamment parce que justement il y a eu une utilisation des marges de manœuvre qui restaient notamment en termes de politique budgétaire, c'est-à-dire ils ont baissé les impôts à un moment où ça n'était pas nécessaire pour l'économie américaine et ça risque de manquer cruellement cette marge de manœuvre au moment où vraiment l'économie américaine fera face à une conjoncture plus négative. Donc, Donald Trump essaie d'influencer les anticipations, c'est naturel, c'est fait de manière un peu caricaturale même, on n'est pas obligé d'y croire, d'autant que le niveau de valorisation des actifs aux États-Unis est extrêmement élevé, ça fait partie évidemment des inquiétudes qui sont très fortes aujourd'hui, que faire face, qu'est-ce qui va se passer dans un contexte où on a des actifs qui sont valorisés à un niveau très élevé et où on a une incertitude sur la conjoncture à venir.
L'élément le plus inquiétant, nous dit-on, c'est l'inversion de la courbe des taux. Alors là, moi, j'ai besoin de vos lumières. De quoi parle-t-on ? Essayons clairement d'expliquer de quoi il est question.
Les taux d'intérêt reflètent les anticipations des acteurs. Quand on dit qu'il y a une inversion de la courbe des taux, ça montre clairement que les acteurs sur les marchés financiers pensent que demain, ça ira plus mal qu'aujourd'hui.
Donc ça veut dire que concrètement, aujourd'hui ou pendant un bref moment la semaine dernière, si j'ai bien saisi, emprunter de l'argent à 10 ans coûter moins cher qu'emprunter de l'argent pour 2 ans.
Absolument. Ce qui paraît effectivement incohérent, hein, c'est-à-dire
oui, parce que normalement, on voit bien ce qui va se passer dans 2 ans. Dans 10, on a plus de mal.
Normalement, si j'immobilise votre argent pendant 10 ans, il faut que je vous compense pour ça et il faut que je paye plus cher. Ben là, au fond, ça fait appel à un autre aspect, c'est-à-dire que les taux à long terme sont aussi l'ensemble des anticipations qu'on fait sur l'évolution des taux à court terme dans les années qui viennent. Et c'est pour ça que je vous disais, ça reflète avant tout l'anticipation que la conjoncture va se dégrader. Oui, donc, si elle se dégrade, il y aura une réaction de la Fed qui va baisser ses taux pour relancer l'activité, et c'est ça que
donc
ça...
Donc il y a tout un processus de manque de confiance, en fait, de manque de confiance dans l'avenir.
Absolument.
Et cette inversion de la courbe des taux, dans le passé, ça a été le signal avant-coureur d'une crise.
Oui, de façon assez régulière. Maintenant, il n'y a pas non plus de mécanique. Hein. Ça révèle les anticipations qui sont pas nécessairement toujours justes.
Oui, c'est pas une prédiction forcément juste.
Et donc, ça révèle ce climat de très grande anxiété qu'on voit aujourd'hui sur les marchés, qui se reflète aussi par la recherche de valeurs refuge, que ce soit le dollar, l'or.
L'or, oui. Notamment. Qui augmente. Hein. Pourquoi on en est là, Sébastien Jean? À qui la faute ou à quoi la faute?
Aujourd'hui, ça pose des questions assez profondes sur la nature du régime de croissance à la sortie de la crise. Parce que on en est là parce que on ne sait pas bien, disons, comment fonctionne sur un mode régulier l'économie mondiale après la crise économique et financière d'il y a 10 ans. On a un ralentissement structurel en Chine, aux États-Unis, en Europe. On est dans une situation où l'inflation est très faible, trop faible selon nos objectifs depuis des années, et on commence à se demander si ça n'est pas un régime permanent auquel on fait face, si les taux d'intérêt très bas, les taux d'intérêt à 0%, ce qui est quand même une anomalie historique, ne sont pas là pour durer beaucoup, beaucoup plus longtemps. Voilà, donc c'est des questions profondes sur le rythme de croissance, sur l'évolution de l'économie mondiale. Est-ce que on va durablement rester avec une inflation presque nulle, des taux d'intérêt presque nuls
aussi?
C'est
tout le système qui semble un peu déstabilisé, là.
Doit trouver un nouveau mode de croissance, un nouvel équilibre, si possible. Et ça reste vraiment à faire parce que on est encore dans les contre-coups de la crise, ou en tout cas à gérer la
sortie. On est encore dans ce qu'on est d'il y a 10 ans.
On est encore à gérer la fin des mesures exceptionnelles qu'on avait prises après la crise.
Et est-ce que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ces derniers mois ont accentuer, aggraver le problème?
Bien entendu, on est dans un contexte de fragilité et là-dessus viennent se greffer ces tensions qui sont très déstabilisantes et qui posent une menace d'autant plus forte que précisément le socle, le fond, le contexte est un contexte de fragilité.
De fragilité, d'incertitude, et ça, les économistes n'aiment pas ça. Hein.
Voilà.
Est-ce que
sur l'investissement.
Oui, les investisseurs surtout n'aiment pas. D'un mot, les chefs d'État et de gouvernement du G7 se retrouvent à Biarritz, là, dans 2 jours, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour inverser la tendance que vous nous décrivez ce matin?
Oh, je crois que c'est même pas vraiment l'objectif. L'objectif avant tout, c'est un lieu de concertation, c'est de se parler. C'est de se parler dans un contexte qui n'est plus celui des économies les plus puissantes du monde. Il n'y a pas la Chine, par exemple, il n'y a pas les grands émergents.
Oui,
ce sont les grands pays riches démocratiques. Et je crois que de toute façon, il est utile et nécessaire absolument de se parler. Ce qu'on sent bien, c'est qu'aujourd'hui, le G7 est un peu accaparé, monopolisé par les dialogues, disons, et les tensions créées par Donald Trump et leurs évolutions. L'espèce de scénarisation de ces tensions bilatérales.
Donc il n'y a pas de miracle à attendre de ce sommet du G7
d'un point de vue économique. Non, il n'y a pas de miracle, mais la coordination, si jamais elle est effective, est très utile.
Merci Sébastien Jean d'être venu ce matin sur RFI.